mais je voulais en profiter puisque j'avais des exemples de couverture de Wintels sur cette clé USB. Je voulais en profiter. Et maintenant, nous allons venir. Alors, comme David Camus vient de très brièvement vous l'expliquer, c'est vrai, en allant très très vite, la fantaisie, c'est quelque chose d'énorme comme sujet. Et comme il l'a dit, bon, la fantaisie classique, moi ce que j'appellerais méchamment les Tolkieneries, ça a continué pendant très 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 longtemps. Et ce que je vais faire par contre, c'est peut-être vous parler, comme me l'avait demandé Marie-Charlotte Delmas, de la production récente en fantaisie, et en particulier des nouvelles évolutions quand même de la fantaisie. Parce que depuis quelques années, on quitte cette sorte d'environnement. Alors très schématiquement, on se retrouvait souvent dans des mondes qui étaient grosso modo ceux du Moyen-Âge européen. Hein, on se bat avec des épées, il y a des châteaux forts, il y a des chevaliers, des alchimistes, etc. Et aujourd'hui, on constate quand même une évolution, pour ne pas dire une sophistication, en particulier dans la psychologie des personnages et des intrigues. Et puis, comme l'a souligné David à la fin, c'est vrai que face à une production qui jusqu'à maintenant était quand même majoritairement anglo-saxonne, on se retrouve maintenant avec des auteurs français, je vous en citerai un certain nombre, qui sont absolument remarquables par leur originalité, par leur créativité, par le talent d'écrivain dont ils font preuve. Alors, je vais passer en revue ce que... Alors là, c'est à titre tout à fait personnel, j'ai le plus apprécié dans la production de ces deux dernières années. Hein, pour vous donner une idée, enfin certains ici me connaissent, savent que je suis un lecteur boulimique, et dans de nombreux domaines, je suis aussi un passionné de science-fiction, de fantastique, de littérature empirique, de pitlit, etc. Bon, et il se trouve que parmi tous mes mauvais goûts littéraires, j'aime aussi la fantaisie. Et donc, grosso modo, là, je vais vous parler de ce que, personnellement, j'ai apprécié le plus parmi environ les 400 bouquins qui sont sortis en français sur les deux dernières années dans le domaine de la fantaisie pure. Alors j'inclus là-dedans aussi tous ces récits dits young adults, jeunesse, parce que je trouve que c'est parfois dans cette catégorie de romans qu'on trouve les choses les plus intéressantes, et que souvent ce sont des romans qui sont mis dans cette catégorie-là ben, simplement parce qu'en jeunesse... du point de vue marketing, on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, ce sont les commerciaux qui souvent font la loi chez les éditeurs. Donc d'un point de vue marketing, si on met ça en jeunesse, on a des chances d'en vendre beaucoup plus que de les mettre en adulte. Mais c'est uniquement un positionnement. Alors, je vous montre ici le Trône de Fer. Je ne veux même pas parler des 15 volumes du Trône de Fer de Martine. Je pense que là, tout le monde le connaît, a vu les premiers épisodes, etc. Alors, comme on va aller aussi très vite, bon, je voulais citer effectivement, comme l'a cité David, la réédition de l'intégrale de Conan et de tous les romans de fantasy de Robert Howard, hein, exécuté par Patrice Winney. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres choses à côté, et tout est très très bon. Je voudrais citer, alors David va peut-être me faire les gros yeux, mais moi j'avoue que je suis un grand fan de Lynn Carter. Avec Ton Gore, on vient de bénéficier de la réédition donc en deux volumes des six romans de Ton Gore, hein, qui est une sorte, quand même, il faut bien le reconnaître, une sorte de sous-Conan, mais moi j'avoue que ça me fait beaucoup rire. Et je trouve ça vachement sympa. On est tout à fait dans la lignée de l'héroïque fantasy, et là on évolue dans la lémurie des temps anciens. Bon. Alors maintenant rentrons dans les choses peut-être un tout petit peu plus sérieuses. Alors tout d'abord, on parlait tout à l'heure aussi, David parlait tout à l'heure de l'environnement arthurien, etc. Bien sûr, c'est quelque chose qui particulièrement en France et en Angleterre, c'est un environnement qui a servi vraiment de base à un très grand nombre de romans de fantasy. Et là, est sorti récemment ce livre, ce roman de Justine Niogré, qui est une auteure française, qui se situe au tout début de la légende arthurienne, hein, et donc c'est, elle revisite l'histoire de Mordred, Arthur et Morgane. C'est absolument remarquable, avec Mordred, un personnage très tourmenté et qui n'est pas le traître et le vilain dont on a l'habitude. De même, un autre auteur français que j'apprécie beaucoup, c'est Olivier Gay, qui avec Le Boucher puis La Servante, qui sont sortis aux éditions Midgard, on a aussi, alors là c'est de la fantaisie pleine de sang, de larmes, de blessures, de massacres, et surtout une très très belle mise en scène de la psychologie des deux personnages principaux, Rec, le général Boucher sans pitié qui donne son titre au premier roman, et Chani, la servante qui apparaît dans, plus principalement dans le deuxième roman, et qui elle a décidé de ne plus être une victime et de se venger de l'empereur qui a voulu la violer. Donc c'est tout à fait remarquable. Alors, il faut dire aussi qu'une des tendances de la fantasy actuelle, c'est d'avoir beaucoup de voleurs exceptionnels et sympathiques, un peu dans la lignée justement du souricier gris et de Fafard. Vous avez par exemple de Michael J. Sullivan, les deux volumes des révélations de Riria. Ça, c'est ce que j'appellerais de la fantasy d'aventure et de cap et d'épée. Hein, on est dans un monde féodal où il y a Royce qui est un très grand voleur avec son bon copain Adrian Bretter émérite. Donc on est tout à fait dans un système à la Liber, l'équipe, et donc là ils sont embauchés pour aller faire un casse dans un palais royal. Petit travail, super facile, vachement bien payé. Et résultat des courses, c'est qu'évidemment la mariée était trop belle et qu'ils se retrouvent face au cadavre du roi, l'épée à la main, et que donc on les accuse d'avoir commis le crime. Et pour corser le tout, ils vont se retrouver être obligés de s'enfuir avec l'héritier du roi en question pour lui sauver la vie. Et à partir de là, tout se barre complètement. Et ça devient excessivement, excessivement drôle parce que tout le monde conspire contre tout le monde c'est toujours avec des intrigues extrêmement opportunistes, plus une église très puissante qui vient essayer de tirer les différents fils derrière. C'est extrêmement drôle et plein de rebondissements. Autre roman aussi avec des voleurs sympathiques, c'est ceux de Rachel Aaron avec la légende d'Elimon Press, où Elimon Press est un voleur à succès parce qu'il habite dans un monde dans lequel chaque plante, chaque objet, etc., du plus petit au plus grand, c'est-à-dire du grain de sable à la montagne, chaque chose a un esprit plus ou moins développé. Et donc, ce qu'il y a de sympathique, c'est qu'on a accordé la liberté à tout le monde, donc on doit respecter tous les esprits. Et Elimon Press est un voleur à succès parce que, par exemple, face à un coffre-fort, il va faire du charme à la porte du coffre et du coup, elle cède et elle s'ouvre. Bon, sauf que bien évidemment, tout ne se déroulera pas aussi bien en permanence. Et il va se retrouver pris dans un complot où on veut réduire en esclavage les objets, etc. C'est très très original comme idée de fantaisie. Et puis là aussi, très 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 enlevé. Donc ça c'est très sympa. Enfin, autre voleur encore sympathique, c'est Malden dans la série des Sept Lames de David Chandler. Malden, fils d'une prostituée et d'un père inconnu, il a fait son éducation dans tous les bordels de la ville libre de Ness, et comme c'est un voleur extrêmement doué, il va se retrouver petit à petit propulsé à la tête de la résistance face au méchant roi qui veut réduire en esclavage la dernière cité libre de ce monde. Alors c'est très classique, mais là aussi ça se laisse lire avec beaucoup de plaisir. Une trilogie tout à fait étonnante et parfaitement réussie, c'est celle de Gabriel Katz, qui est un auteur français avec le Puits des Mémoires, qui est sorti 3 volumes chez Scrinéo, et donc qui commence avec des personnages qui sont totalement amnésiques et qui se dégagent des ruines d'un chariot qui s'est écrasé au fond d'un ravin. Et donc tout l'intérêt de la chose, c'est de suivre ces personnages qui petit à petit vont se refaire une vie à partir de zéro et découvrir aussi petit à petit pourquoi ils étaient enfermés au secret dans ce chariot, qui ils étaient vraiment. Et tout l'intérêt de la chose, c'est que donc ils se reconstituent une vie, et au fur et à mesure qu'ils découvrent leur vie précédente, ils s'aperçoivent qu'en fait ils avaient, allez, entre guillemets, complètement raté cette vie précédente, et que grâce au complot qui les a tous rendus amnésiques, ils vont avoir l'opportunité de se reconstruire en étant des personnages nettement plus sympathiques et meilleurs que ce qu'ils pouvaient être avant. En plus, c'est plein d'humour et c'est tout à fait original. Il y a aussi un très beau livre, c'est celui de c'est celui d'Olivier Perru, livre 1 des Martyrs, où là aussi il nous emmène dans le découvrir le royaume du Récorax, où il y a une paire d'assassins, des frères qui sont des assassins hors pair et qui sont parmi les derniers survivants d'une race en quelque sorte entre guillemets de surhommes, et qui ont été poursuivis. Et là aussi, Olivier Perru dans Martyr, bon, développe surtout la psychologie des personnages, et ce premier roman est dominé en particulier par la personnalité du méchant, le roi Carmalis, qui étant devenu roi sans le vouloir, est devenu un être qui est monstrueux au niveau psychologique, parce qu'évidemment ayant pris le pouvoir l'a détruit psychologiquement. Tout le monde doit comploter contre lui, etc. Et il trahit son angoisse en devenant aussi monstrueux au physique, c'est-à-dire qu'il est devenu boulimique, et ça n'est plus qu'une boule de graisse. Là aussi, avec tout un enchevêtrement d'intrigues politiques, voilà un roman qui renouvelle très agréablement, garanti en plus sans dragon, donc ça change. Voilà un roman qui renouvelle dans la fantasy classique tout à fait le genre. Idem aussi dans le domaine de la fantasy classique, vous avez le premier tome de ce qui est une série qui devrait se prolonger assez longtemps si Pierre Pevel peut réaliser ses ambitions d'écriture, avec Le Chevalier, qui est le premier tome du Haut Royaume. Alors là aussi, c'est un roman très classique où on mélange des personnages qui sont ou très sympathiques, ou très antipathiques, et puis qui met en valeur tout ce qui est amour, fidélité, honneur, trahison, couardise, courage, etc. Tout est bien mélangé en suivant les aventures de Lord Ascarian, qui a été un chevalier de la garde grise, jeté en prison, et le roman débute. Soudainement, le roi qui l'a fait jeter en prison le fait sortir, parce qu'il est le seul, peut-être, à pouvoir sauver le royaume des différentes menaces. Alors, comme c'est Pierre Pevel, là, par contre, il y a des dragons, parce qu'il aime bien les dragons, mais ce ne sont pas les dragons dont on avait l'habitude dans les autres romans de Pierre Pevel. Le Haut Royaume menacé par le dragon roi, c'est aussi très très bien. Enfin, pour en terminer avec cette fantaisie que j'appellerais un petit peu classique, il y a Les Contes Désenchantés de David Brie, qui en fait une sorte de roman à sketch. Hein, et en fait, on est dans une salle d'auberge, l'auberge du Long Chemin, qui est une étape obligé où on s'arrête quand on va à la cité, quand on se rend à la cité royale de Fardebol. Et donc, tous les braves paysans qui sont là en train de prendre leur bière du soir découvrent qu'il y a une petite troupe de 4 paladins conteurs qui vient d'arriver. Et donc, ils vont remplir la soirée, la bourse de l'aubergiste en même temps, avec toutes leurs histoires. Et en fait, ce sont des contes désenchantés, pour ne pas dire désabusés. En plus de ça, avec une morale qui est souvent en fait très amorale. Et donc, on va découvrir à travers leur conte quelle est la réalité de ce monde, avec toujours un réalisme pratique qui rendrait jaloux Machiavel, parce qu'en fait chacun de ces 4 baladins conteurs n'est naturellement pas ce qu'il paraît être, et c'est ça qui fait tout l'intérêt des contes désenchantés. Ça aussi c'est très cynique. Et très bien écrit. Donc, comme on le disait tout à l'heure, en fait, donc la fantaisie commence à se diversifier. Et maintenant, on trouve aussi de la fantaisie qui se trouve hors du Moyen Âge entre guillemets classique, et donc qui nous transporte dans d'autres époques. L'un des précurseurs français du genre, ça a été Jacques Martel, qui avait écrit Le Sacrifice du Guerrier en deux volumes, qui se passait dans une sorte de Perse antique, hein, avec des hoplites, etc. Et il était poursuivi par l'Empire de la Mer, qui ressemblait à mer au sens A-M-E-R, hein, et donc qui ressemblait un peu à l'Empire perse antique. Et il a récidivé récemment, donc avec un nouveau roman qui s'appelle La Guerre de l'Hydre, qui se passe quelques siècles plus tard, et où là on est dans une sorte d'équivalent de la fin de l'Empire romain, hein, avec une cité qui ressemble furieusement à Rome, qui domine tout, et qui est assiégée par des cavaliers nomades des steppes qui ressemblent fortement aux cavaliers uniques. Donc, voilà, c'est ça. La guerre de l'Hydre. L'Hydre étant le Khan des Khans, qui est une sorte d'Attila. Alors, la Grèce antique, elle avait aussi séduit un grand auteur qui est Gene Wolfe, avec Soldat des Brumes, hein, dont l'intégrale en 2 volumes est ressortie récemment chez Lunand, où là on est juste après la bataille des Thermopyles, mais dans une Grèce qui est tout à fait magique, et où est là aussi un amnésique, un latro, il a été blessé à la tête pendant l'une de ses batailles. Et il va essayer de refaire sa vie et de découvrir qui il était. Et il est obligé d'écrire une sorte de journal au jour le jour, parce qu'il oublie en permanence ce qu'il a fait. Donc, pour se reconstruire, ben, il ne peut avoir accès qu'à son journal. Il a cependant un don, c'est qu'il voit tous les êtres divins et surnaturels dont regorge cette Grèce antique. Et donc, eh ben, comment va-t-il faire pour retrouver la mémoire, savoir qui il est et retrouver sa famille. Un peu dans le même domaine, vient de sortir un roman brillant qui est même pas mort, donc Première branche, de Jean-Philippe Jaworski. Alors, Jean-Philippe Jaworski, c'est un écrivain qui s'était déjà fait connaître auparavant pour avoir fait de la fantaisie dans une sorte de monde ressemblant à l'Italie de la Renaissance. Là, avec Même pas mort, il change complètement d'époque et de lieu, et il nous emmène dans la Gaule antique du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et là, en 300 pages, il nous fait découvrir toute l'épopée de Bélovèze, qui est un héros gaulois qui a existé historiquement, et c'est lui. fondé entre autres la cité de Milan, pendant que son frère, lui, allait coloniser la grande forêt assinienne. Et donc, dans L'homme pas mort, il nous raconte donc ce monde gaulois. Il nous fait partager en fait la terreur des gens de l'époque, et ça, c'est ce qu'il y a vraiment de brillant dans le roman de Jaworski, c'est que d'une part, il nous fait rentrer dans la peau des Gaulois de l'époque, qui étaient donc des gens superstitieux, comme on le sait depuis qu'on a lu Astérix, hein, qui n'avaient pas le sceptre tombe sur la tête. Et donc, d'une part, tout est un signe. Tout signifie quelque chose de la part des dieux et des esprits qui peuplent. Et en même temps, on peut en faire une double lecture, c'est-à-dire que tout peut s'expliquer tout à fait naturellement. Et donc, vous avez en permanence cette double lecture qui est remarquable et dont les personnages eux-mêmes se rendent compte. Ils se disent, après tout, j'ai vu des sorcières sur un arbre et à un moment elles ont disparu et j'ai vu des grues qui s'envolaient de l'arbre. Était-ce des sorcières qui se faisaient passer pour des grues ou était-ce des grues que j'ai pris pour des sorcières? Et le doute reste toujours là. Donc, c'est un roman tout à fait intéressant. De même que, un petit peu plus tard, vous avez le roman de Andrus Kivira qui s'intitule « L'homme qui savait la langue des serpents » et qui, là, nous transporte dans cette Estonie sauvage à l'époque de la conquête des pays baltes par les chevaliers teutoniques. Donc, on est au XIIIe siècle et c'est l'évangélisation au bout de l'épée contre des tribus qui vivent encore à l'époque chamanique. Et donc, c'est vu à travers les perceptions du dernier homme, du dernier Estonien qui connaît encore la langue des serpents, qu'il avait appris lorsqu'il était un jeune garçon, et qui doit vivre ce changement complet de civilisation, et donc partir d'une civilisation qui est une civilisation de cueillette et d'agriculture extrêmement primitive pour les débuts d'une sorte d'industrialisation. En particulier, il commence à y avoir des forgerons partout, et c'est cette supériorité technologique, puisque les chevaliers teutoniques, ils sont revêtus d'armure. Alors évidemment, quand on leur tire dessus avec un arc et des flèches à pointe de silex, on perd. Et donc, c'est en même temps la fantaisie, puisqu'ils communiquent avec les esprits de la nature, etc. Et c'est comment... Et ça, c'est un peu comme Tolkien avant, c'est-à-dire que c'est une grosse perte que de devenir urbain et civilisé au lieu de rester pastoral et entre guillemets barbare. En plus de ça, ça nous transporte là vraiment dans un monde qu'en France on connaît très très mal, que celui des pays baltes. Autre auteur français qui nous transporte aussi dans une autre époque, c'est Bénédicte Taffin avec La pucelle et le démon, qui est une version extrêmement impertinente de la vie de notre héroïne nationale, Jeanne d'Arc. on est dans un pays où le dauphin de Falati, royaume qui est ravagé par la guerre avec les Azuléens, et donc il va faire appel à un mercenaire qui s'appelle Laïr, mercenaire qui est possédé par une sorte de démon qu'il a du mal à contrôler, et Laïr est envoyé dans un petit village perdu qui s'appelle Donfroid pour chercher une pucelle qui s'appelle Jeanne et qui entend des voix et qui, paraît-il, pourrait sauver le royaume. Manque de bol, Laïr, comme la route est longue, un peu avant d'arriver à Donfroid, il décide de passer la nuit dans un bordel, parce qu'il faut qu'il se remette de son voyage. Et le manque de bol, c'est que pendant ce temps-là, le village de Donfroid est entièrement massacré par des démons. y compris Johan. Alors évidemment, comme Laïr peut pas dire, peut pas revenir en disant au roi que bon, bah, il a échoué dans sa mission, c'est un homme de ressources. Donc après tout, entre une bergère pucelle voyante et une catin disciple de Sappho, le roi n'y verra que du feu. Et donc il emmène avec lui la nana avec laquelle il a passé la nuit. Je vous laisse, et ensuite, je peux vous dire que les choses évoluent curieusement. C'est très cynique et très drôlatique. Autre roman aussi qui sont sortis récemment. Alors, je vous citais tout à l'heure Jean-Philippe Jaworski, qui avait été un des premiers en France avec « Gagner la guerre » à nous emmener à l'époque de la Renaissance. Ça avait séduit aussi Pierre Peul avec sa trilogie de Vierstadt. Et là, on a maintenant un auteur anglais qui s'appelle Joe Abercrombie, qui lui aussi aime bien la Renaissance italienne. Et avec « Servir froid », qui, comme son titre l'indique, est un roman absolument glaçant. C'est la guerre en fer dans laquelle on suit Monza Mercato, qui est une mercenaire célèbre et redoutée, et qui a été trahie par le grand-duc Orso, et c'est l'histoire de toute sa vengeance. Et son corps est complètement brisé, mais comme son esprit, lui, ne l'est pas, elle réclame vengeance. Il va falloir qu'elle massacre tous les gens qui l'ont trahi, et elle va se retrouver avec un ivrogne, un empoisonneur, un meurtrier style serial killer obsédé par les nombres, et puis un barbare très désabusé. Et avec eux, elle va reconstituer une bande et donc exercer sa vengeance. Comme je le disais, c'est glaçant. Et c'est remarquable. Se déroule dans un environnement aussi style époque Renaissance italienne, parce que la Renaissance italienne en plus c'est bien, avec Florence, Venise, etc. Il y a tout ce qu'il faut, des nobles décadents et raffinés, un peuple opprimé, des débuts de république, etc. Donc c'est parfait, tout le monde se trahit et s'empoisonne. Donc c'est très bien au niveau fantasy, et c'est ce qu'utilise aussi Scott Lynch avec la série des salauds gentilshommes, hein, une trilogie, et qui est en même temps un peu une parodie des bandits d'honneur, parce que dans le premier volume, la ronce de Camors, c'est un maître voleur admiré par le peuple, c'est le héros des miséreux, hein. Il vole les riches pour donner aux pauvres, sauf que évidemment on découvre qu'en fait Locke Lamora, en vérité, bah, quand il pique du fric aux riches, il le garde pour lui, hein. Les pauvres ils en voient pas la couleur. Et en plus de ça, il est un peu prisonnier de toutes les rumeurs sur ses exploits, parce qu'il avait lancé ça un petit peu, et finalement, ben, comme tout ce qui se passe, on le lui attribue. Le résultat, c'est que les salauds gentilshommes, ben, ils se retrouvent poursuivis, y compris pour ce qu'ils n'ont pas fait. Et comme en plus de ça, il va y avoir une guerre clandestine dans les bas-fonds, bah on va suivre ce malheureux, non, en fait, c'est quand même un salaud, Locke Lamora. Mais donc, on va le suivre pour essayer de s'en sortir et au moins de pouvoir rester en vie. Autre roman très original, c'est celui de Brian McLellan avec Les Poudres Mages. Le premier volume vient de sortir chez Panini Eclipse. Et là, on est dans un monde qui est furieusement proche au niveau politique et culturel de celui de la France à la veille de la Révolution de 89. Hein. On a un roi faible, une noblesse corrompue, y compris chez ses magiciens les plus puissants, les privilégiés, parce que là, il y a des magiciens. Il y a un peuple affamé, donc tout est en place pour qu'il y ait une révolution qui sera mise en œuvre par le maréchal Tamas, qui est un grand héros de guerre, c'est le Lafayette de ce monde, et qui en plus est un poudre-mage, parce qu'à côté des magiciens royaux, il y a toute une autre caste de magiciens qui tirent ses pouvoirs de la poudre à canon. Ils sniffent de la poudre à canon et ça leur donne des pouvoirs. Voilà, donc vous voyez, c'est même très original. Et donc on va commencer, le roman va nous montrer les conséquences du coup d'état de Tamas, donc organisation de la terreur pour le bien du peuple, manipulation en tout genre pour tous les opportunistes qui veulent profiter de la situation, tout un tas de complots et naturellement tous les royalistes qui voudraient rétablir l'ordre ancien. Et en même temps, c'est un polar. Curieusement, parce qu'on va suivre toute l'enquête qui est menée par Adamat, qui est un vieux policier intègre, pour découvrir ce qu'est devenu une bande, entre guillemets, terroriste, qui était connue sous le nom de la promesse rompue de Crésimir, et dont le nom a été prononcé dans leur dernier souffle par tous les magiciens qui ont été assassinés par Tamas. Et donc, à partir de là, on va arriver dans des territoires très très différents, et les philosophes du moment qui étaient des philosophes naturalistes comme les nôtres, là vont être un petit peu surpris par ce qu'ils pensaient être des mythologies. Autre roman aussi tout à fait intéressant. Qui a été vendu en jeunesse, hein, puisque c'est sorti chez Castelmore, c'est celui de Leigh Bardugo, qui s'appelle Grisha, c'est le premier volume d'une série qui s'appelle Les Orphelins du Royaume. Et comme c'est déjà sorti depuis 2 ans et qu'ils n'annoncent pas la suite, je ne sais pas si ça a si bien marché que moi. J'ai peut-être été le seul lecteur à apprécier le roman, mais là, c'est un roman qui nous emmène dans la Ravka, qui est un pays qui ressemble fortement à l'Empire russe du XVIIIe siècle, avec des magiciens, les Grishas en plus. Et donc, on va découvrir une guerre entre le royaume de Ravka, qui accueille de manière hospitalière les magiciens, et puis ils luttent depuis un siècle contre leurs voisins. Et en plus de ça, le pays est en train de se réduire comme une peau de chagrin suite à un maléfice qui avait été jeté par un très puissant magicien. Et donc, ça va être comment deux petits orphelins qui ont été recueillis dans un orphelinat dû aux bonnes œuvres d'un duc vont se retrouver incorporés dans l'armée. Et puis... Petit à petit, donc, découvrir quel est leur véritable destin et se retrouver même à la cour du tsar et naturellement faire beaucoup de jaloux. Donc, c'est tout à fait remarquable comme roman et un environnement qui est très très réussi. Alors, il y a aussi des romans sont sortis qui nous emmènent dans un environnement autre que celui européen. Alors, un grand classique qui vient d'être édité, c'est Les Aventures écrites par Charles Saunders, Imaro. Imaro, c'est le banni, c'est le légendaire héros d'une sorte d'Afrique complètement fantasmée qui s'appelle Nyumbani. Et donc, c'est le Conan noir. C'est le Conan noir. D'ailleurs, Charles Saunders ne s'en était pas caché. Il avait dit qu'il en avait marre des héros blancs style Tarzan, et que donc il était temps qu'il y ait des héros noirs. Et donc, il a très très bien réussi avec Imaro. Et c'est grâce à Patrice Louinet qu'on a pu avoir cette intégrale d'Imaro, parce que pendant très longtemps, on n'a eu que les 3 premiers romans traduits en français dans une, c'était au début des années 80 chez Garancière. Et là, c'est une, bon, les, la traduction des trois premiers a été révisée et le quatrième était inédit.
Et même le texte de Saunders l'a revu.
Voilà, et bon, voilà, il y a beaucoup d'inédits dedans. Donc ça, c'est tout à fait extraordinaire. Autre continent qui attire aussi les auteurs de fantasy, c'est l'Asie. Alors, l'Asie, on trouve par exemple les deux volumes de Katana de Jean-Luc Bizien. Alors, comme son titre l'a dit, ça nous emmène dans un Japon médiéval où le roi dragon exerce sa tyrannie sur le Japon. Et puis il va y avoir le jeune Ichiro qui est un jeune samouraï errant, et il va décider de défier le shogun sorcier qui a tué ses parents, et il va falloir pour ça qu'il trouve un katana qui a été dont la lame a été bénie par les dieux. C'est le seul moyen de tuer le roi dragon et le shogun. Et donc, qui va pouvoir se montrer digne de trouver ce katana, etc. Il va falloir que donc il va réunir toute une petite bande, et ils vont être obligés de s'unir entre eux, alors qu'ils ne s'entendent pas tant que ça, parce que ça va être le seul moyen de vaincre. Autre roman aussi qui nous emmène en Asie, mais là, nous allons en Asie continentale. On est transporté en Chine avec Porcelaine, la légende du tigre et de la tisseuse d'Estelle Fay, qui est un conte de fantasy chinois qui se déroule du 3e au 18e siècle dans les terres des trois royaumes, et on va y suivre les aventures de Xiao Shen qui a cassé une branche dans une forêt magique, et donc le dieu de la montagne, pour le punir, va l'affliger d'une tête de tigre et d'un cœur de porcelaine. Et à partir de là, nous allons suivre ses aventures, parce qu'il va devenir quasi immortel, avec un autre immortel, son ami Pied de Cendre. Et donc, leurs aventures vont se poursuivre jusqu'au XVIIIe siècle, au moment où commencent à arriver les premiers Européens véritablement en force, et ça se termine à Shanghai. C'est un roman en même temps de vengeance et d'amour, et bien écrit, excessivement prenant. Alors, toujours dans une autre Chine fantasmée, mais alors là, par contre, on s'amuse énormément, ce sont les aventures de Maître Li et Bœuf numéro 10 de Barry Hugart, qui viennent d'être rééditées en trois volumes chez Folio SF. Alors là, on est dans la Chine confucéenne du 7e siècle après Jésus-Christ, et Maître Li, qui est un taoïste qui honnit les confucéens et qui est le plus grand lettré et qui a juste un tout petit défaut, il est alcoolique, mais c'est le plus grand lettré de Chine. Il a passé tous les examens, et puis finalement il vit dans une espèce de taudis où vient le chercher Bœuf numéro 10, qui est un jeune paysan dont le village a été ravagé par une épidémie étrange. Tous les enfants en dessous d'un certain âge sont tombés dans une sorte de sommeil comateux, on ne réussit pas à les en tirer. Il va donc à Pékin pour essayer de trouver un magicien qui puisse les sortir de là, et le seul qui accepte la poignée de sapèque qu'ils ont réussi à réunir, c'est Maître Li. À partir de là, on va suivre Maître Li et puis Bœuf numéro 10, qui va devenir son assistant, dans des aventures complètement déjantées et loufoques à travers toute la Chine. Ils iront même dans les enfers chinois, ils auront affaire à l'empereur de Jade qui est assis sur le trône des dieux, etc. C'est complètement délirant, et en même temps, d'abord, c'est fort bien écrit, et en plus de ça, c'est la Chine telle que les Européens pouvaient se l'imaginer à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire un royaume complètement mythique et où tout est possible. Donc ça, vraiment, je vous recommande fortement tout cela. Alors il y a aussi ce que j'appelle, ah oui parce que je vois que le temps passe. Bon, il y a aussi ce que j'appellerais de la fantaisie totalement inclassable, parce que les univers dans lesquels il nous fait voyager sont complètement différents et donc peu de rapport avec d'autres mondes, ce qui nous garantit naturellement une évasion totale. Alors il y a eu par exemple récemment le monde des Fils des Brumes de Brandon Sanderson, hein, avec en deux volumes, hein, un monde dans lequel règnent des brumes, et une partie des gens ont un don qui est celui de l'allomancie, c'est-à-dire que chacun peut utiliser un métal ou un autre pour pouvoir s'en servir pour augmenter sa force, faire des bonds incroyables, ou au contraire arrêter par exemple un projectile qu'il aurait tiré, etc. Et ce que fait Brandon Sanderson, c'est qu'il réussit, David Camus disait tout à l'heure, lorsqu'on enfreint les lois naturelles, il faut que ce soit d'autres lois qui les remplacent. Et là, Brandon Sanderson, avec les lois de l'allomancie, le fait de manière absolument brillante. D'ailleurs, il y a tout un glossaire et un mode d'emploi à la fin pour que le lecteur puisse suivre et comprendre plus facilement la manière dont les combats se déroulent et dont les Fils des Brumes utilisent leurs dons. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne s'est pas arrêté là, parce que dans les Fils des Brumes, on est dans un monde, disons, sorte de fin du Moyen-Âge, tout début Renaissance. Il a poursuivi dans l'alliage de la justice, où là, le progrès technique, le monde a évolué, et nous sommes là, toujours dans ce monde de Scadrial, mais on est à une époque qui correspond grosso modo, et à un environnement qui correspond grosso modo à celui du Far West, de l'Amérique du 19e. Donc on a inventé les armes à feu, et là à nouveau, les magiciens allomanciens peuvent utiliser leurs dons. Donc par exemple, pour réussir à tuer un magicien, on fabrique des pistolets en aluminium, avec des balles en aluminium, parce que l'aluminium est le seul métal neutre connu sur lequel il n'y ait aucun allomancien qui puisse interférer. Donc évidemment, l'aluminium étant, dans les conditions technologiques du 19e siècle, extrêmement difficile à produire, c'est un métal qui vaut très très cher, donc c'est très difficile. Et il commence à y avoir aussi des éclairages électriques, des chemins de fer, etc. Et donc c'est ce mélange milieu du 19e siècle et magie qui est rendu tout à fait intéressant. En plus de ça, là aussi, il y a une enquête policière, et ce sont en même temps l'application des premiers pas de la médecine légale et de tout ce qui est police scientifique qui se déroule donc dans ce monde où il faut tenir compte du fait qu'il y a des magiciens. Autre monde complètement inclassable et passionnant, c'est celui des Derniers Parfaits de Paul Beorn, où là on est dans une sorte d'Uchronie cathare, puisque en fait les cathares ont pris le pouvoir dans le royaume de France. Ils sont en lutte contre les Espagnols, et une partie de l'Espagne s'est effondrée dans les océans, donc il n'y a plus que des îles, etc. C'est tout à fait réussi, et c'est l'épopée des Derniers Parfaits, c'est-à-dire les cathares qui eux ne sont pas devenus des cathares noirs comme ceux qui luttent en France au service du royaume d'Occitania. Donc c'est comment les derniers cathares essayent de maintenir la flamme des parfaits. Et en même temps, bon, ils vont découvrir une sorte des artefacts qui, est-ce que c'est en fait un monde dans lequel la technologie était devenue telle qu'ils sont revenus en arrière, on ne sait pas trop, mais c'est très curieux et très intéressant, comme le monde de Peter Vibrette dans le cycle des démons, où là, ça c'est le premier tome, le troisième vient juste de sortir. C'est un monde dans lequel, à la nuit tombée, les démons sortent du sol. Hein, ils sortent sous forme de fumée qui se solidifie, et pendant toute la nuit, les démons chassent les hommes, et donc les hommes vivent enfermés dans leurs maisons qui sont couvertes de runes, qui les protègent, qui repoussent les démons. Mais dès qu'on s'aventure à l'extérieur, ben, on peut devenir la proie des démons pendant la nuit. Et dans le premier volume, on suit les aventures, donc, comment s'appelle-t-il déjà ? Arlen Bels, qui donc va avoir l'idée de se tatouer toutes ces runes de protection sur le corps. Ce qui fait que, pour se venger des démons, il va les chasser pendant la nuit. Et donc, comme il se bat nu avec toutes les runes tatouées sur le corps, il devient intouchable. Donc, c'est tout à fait curieux. Et puis ensuite, on va découvrir qu'il y a d'autres êtres humains qui essayent aussi de résister aux démons, etc. Donc, un monde tout à fait étonnant et original. Il y a aussi, je ne résiste pas au plaisir, parce que je suis un grand fan de Cité Garrett, détective privé de Glenn Cook, 7 volumes déjà sortis à la Talente. Et là, donc, c'est les aventures de Garrett, qui est détective privé dans un monde où grouillent les elfes, les trolls, les créatures variées, où depuis plus d'un siècle se poursuit la guerre du Cantar contre les centaures et autres barbares, etc. Et Garrett a comme associé l'homme mort, qui est un type qui est mort depuis, une créature qui est morte depuis 3 siècles, mais dont seul l'esprit vit à l'intérieur du corps, et donc qui accepte d'aider Garrett à condition que Garrett empêche les souris de clignoter son corps. Donc chacun y trouve son compte. C'est excessivement drôle, parce que c'est vraiment le décalque en fantaisie du polar noir à la Dashiell Hammett. C'est le décalque intégral, c'est hilarant. De même que très réussi aussi, c'est les pastiches chemésiens d'Anaïs Crow, hein, qui commence avec les lunes de sang, et il y a quatre volumes à l'heure actuelle, et ça se passe dans la capitale du royaume de Mortelune en 1882, du cas d'Andrier Mortelunien. Et donc, ça commence avec la rencontre d'un médecin nain qui a été blessé dans la guerre des 20 lunes, et d'un détective qui est demi-elfe noir et qui cherche un colocataire. Bon, je pense que ça peut vous évoquer quelque chose. Et en fait, dans le premier volume des Lunes de sang, c'est le décalque d'une étude en rouge, version fantasy, et puis ensuite elle va développer, tout en gardant donc les caractères des deux personnages de Conan Doyle, elle va faire évoluer tout ça dans des enquêtes diverses. C'est très très original. Alors, oh là là, mon Dieu, on va me faire les gros yeux parce que je suis en train de dépasser. Alors, je cite quand même aussi les Princes de la Pègre de Douglas Ulick. C'est tout à fait remarquable. Et là, c'est un monde dans lequel l'empereur, pour protéger son trône, a scindé sa personnalité en 3, et chacun des tiers de personnalité de l'empereur règne à tour de rôle. Mais naturellement, les deux autres tiers, pendant qu'ils ne règnent pas, sont pas très contents, donc ça crée de plus en plus de tensions. Et va se retrouver pris là-dedans un garçon qui survit, qui s'appelle Droth, et qui est un informateur, un petit informateur, et donc il va essayer à partir de là va se retrouver pris dans les intrigues, parce qu'en fournissant des informations, il y en a d'autres qui vont en vouloir d'autres, puis on va le menacer de mort s'il ne les amène pas, etc. Et donc il va se retrouver pris dans le complot entre les trois tiers d'empereurs. C'est très très drôle. Alors, pour mémoire, naturellement, les mondes de Robin Hobb, hein, dont les derniers, c'est les développements dans les cités des anciens. Il y a 8 volumes de parus, donc avec des dragons, etc. Et où on recherche là quelles sont les dernières villes en ruine des anciens, ce qui permettrait peut-être de sauver des dragons qui sont en train de en pleine décadence et qui sont de plus en plus mal. Alors aussi une autre œuvre que je ne résiste pas à citer, c'est donc Téméraire, c'est toute la série de Naomi Novik. Qui est absolument remarquable. C'est une sorte d'uchronie, ça commence aux guerres napoléoniennes, sauf que nous sommes dans un monde dans lequel tous les peuples ont des dragons. Donc ils ont des forces aériennes depuis toujours, et ils utilisent les dragons. Et ça permet à Naomi Novik, petit à petit, de s'écarter de la trame des guerres napoléoniennes et de nous faire découvrir tout ce monde avec une Amérique du Sud où, du coup, comme les Incas avaient des dragons, ben, ils ont exterminé les Espagnols dès le début. Donc il y a un empire Inca qui est toujours là. Idem, l'Afrique n'a pas pu être colonisée parce qu'évidemment il y avait des dragons aussi qui rétablissaient un peu l'équilibre des forces. Autre roman absolument extraordinaire, c'est Le Dragon Griol et sa suite, Le Calice du Dragon, hein, de Lucius Shepard, qui vient malheureusement de nous quitter il y a quelques semaines. Et là, le dragon Griol, c'est le cadavre d'un dragon qui est tellement gigantesque qu'une ville s'est bâtie sur les flancs du dragon. Et qu'en fait, on exploite les écailles et tout ce qu'on peut trouver du dragon. Mais la question, c'est, le dragon est-il vraiment mort? Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on se pose la question, parce que chaque fois que quelqu'un commet une action un peu coupable, etc., c'est le dragon Griol qui m'a poussé à faire ça. Donc... C'est absolument extraordinaire. Roman aussi tout à fait extraordinaire, une trilogie pour l'instant, c'est Le Sang des Sept Rois de Régis Godin. Mais là, comme je vois que le temps tourne très vite, je n'en parle pas. Régis Godin sera là demain. On se retrouve scotché. J'avais attendu un petit peu et je me suis retrouvé en train de lire les 3 volumes à la suite des uns des autres. On se prend au jeu. C'est extraordinaire. De même que Ferry pour les ténèbres de Jérôme Noirez. Là aussi, on est dans une espèce de ville qui s'est bâtie sur la récupération des déchets. D'où viennent ces déchets? Pourquoi y a-t-il tous ces déchets? On ne le sait pas vraiment. Et à partir de là, il y a un vocabulaire qui, là, pour le coup, comme David le disait tout à l'heure, rien que le vocabulaire vous emmène déjà complètement dans un autre monde. Il a créé complètement tout un vocabulaire, une langue pour décrire des choses, des animaux, des plantes, etc. Et vous êtes plongé là-dedans. Alors vous sentez, vous devinez ce que c'est, mais c'est complètement différent. Tout à fait extraordinaire. Série de l'Ange du Chaos aussi. Avec les aventures d'Elendil, qui est un agent secret pour le chaos, alors parce qu'il a été chassé de l'Empire de la Lumière. Donc là aussi, c'est toujours le bien, le mal, et ce qu'il peut y avoir entre les deux. excellent, Michel Robert, auteur français. Idem avec Le bâtard de Cossigan de Fabien Cerutti, tout nouvel auteur, son premier roman vient de sortir. On évolue entre la France du XIVe siècle et celle de 1899, sauf que ces deux Frances sont très différentes de celles qu'on connaît. Dans celle du XIVe siècle, le comté de Champagne est le dernier refuge des dernières dynasties elfiques et féeriques. Et dans la France de 1899, c'est le descendant du bâtard de Cossigan, Pierre Cordovan de Cossigan, donc c'est le descendant du bâtard qui nous écrit un certain nombre de lettres. Alors ça, lui, ça a l'air d'être plutôt une sorte d'Indiana Jones de 1899, sauf que lorsqu'on lit ces lettres et qu'on compare avec les mémoires du bâtard de Cossigan, on s'aperçoit qu'apparemment, ils ne vivent pas dans la même France. Parce que dans la France de 1899, on n'a jamais entendu parler d'un comté de Champagne dans lequel il y avait des elfes, etc. Donc, c'est extrêmement, extrêmement intriguant. Aussi, alors, un roman très rapidement, alors on parlait tout à l'heure du Moyen-Âge et du premier roman, hein, le roman de Renard, Les Outrepasseurs, tome 1 de Sylvain Wilder, nous emmène dans, nous fait découvrir un peu les descendants du roman de Renard aujourd'hui, avec des gens qui sont affligés d'une malédiction qui remonte là aussi à 1207. Et donc on va découvrir en parallèle pourquoi il y a eu cette malédiction à l'époque et quels sont ses effets dans notre monde aujourd'hui. Et elle a très bien intégré tout ce qui était folklore féerique français traditionnel. Ça y est, on fait les gros yeux, je sais, oui, oui.
Alors, quelques minutes.
Oui, j'accélère. Roman totalement inclassable, hyper hilarant, c'est Les aventures de Jennifer Strange de Jasper Ford, deux volumes, c'est complètement déjanté, on est dans l'Angleterre d'aujourd'hui, celle des Royaumes des Unis, parce que le Royaume-Uni est resté, ne s'est jamais uni, et donc c'est une multitude de petites principautés complètement, toutes avec des dirigeants tous pourris les uns que les autres et essayant de s'en mettre plein les poches. Et donc Jennifer Strange, c'est l'espèce de femme à tout faire de l'agence Kazam qui appartient aux grandes Zambini, hein, mais magie et sort en tout genre, et elle se retrouve obligée d'être, elle est la seule à pouvoir tuer le dernier dragon qui vit dans sa réserve. Et évidemment, vu les prix de l'immobilier, si on peut récupérer les terres du dernier dragon une fois celui-ci mort, c'est une bonne affaire. Sauf qu'elle, en plus, elle le trouve vachement sympathique, ce vieux dragon avec qui elle discute le bout de gras. Donc elle n'a pas envie de prendre la Rolls blindée qu'on lui a refilée pour aller le tuer. Donc c'est complètement déjanté, c'est très drôle. Les dieux nordiques sont aussi très à la mode en fantasy depuis quelques temps. Alors il y a la série d'Orson Scott Card, des mages de West Hill, hein, deux volumes qui viennent de sortir, où on est dans une famille, plongé dans une famille totalement dysfonctionnelle, puisqu'évidemment ce sont les dieux nordiques qui se sont retrouvés émigrés sur Terre, et puis Loki a volé la clé, ils peuvent plus rentrer dans Asgard. Donc ils sont déchus et ils survivent à grand-peine puisque personne ne croit à eux, donc ils ont plus beaucoup de pouvoir. Et donc il va falloir tous ces dieux qui sont émigrés malgré eux sur Terre, ben ils essayent de retrouver la porte perdue pour pouvoir repartir chez eux. Et c'est dans la famille des Norse que on va peut-être retrouver la solution. Et pendant ce temps-là, en même temps, et c'est ça qui est très intelligent chez Card, c'est qu'il nous fait découvrir de l'autre côté West Hill, qui est donc Asgard quelque part. Il nous montre comment ce monde donc de Dieu a complètement stagné, alors que la Terre a évolué technologiquement. Les derniers dieux qui restaient dans Asgard et les autres créatures qui y vivent, bah, comme par définition, ce sont des déités, ils n'ont pas besoin d'évoluer. Ce qui fait que maintenant, ils vont se retrouver complètement en porte-à-faux, si jamais on ouvre la porte, par rapport à la technologie terrienne. Et ça, c'est un twist très intéressant dans les romans de Card. Alors, beaucoup plus, très amusant aussi, avec des dieux nordiques, c'est Mélissa de la Crousse, avec les sorcières de Northampton, deux volumes sortis, où trois sorcières vivent dans la ville de Northampton. Alors pour ceux qui connaissent, les Hamptons, c'est le Deauville de Long Island en dehors de New York, et il existe trois Hamptons, hein, dans notre monde à nous, c'est East, West et South, et là elles vivent dans Northampton, qui est le Hampton qui n'apparaît pas vraiment, sur la carte. Et on fait, ce sont là aussi, c'est Freya et ses sœurs qui ont été exilées sur Terre, et elles vont se rebeller contre leur exil. Donc ça, tout à fait sympathique. Alors, pour terminer, des romans drôlissimes qui sont un mélange de polar et de fantasy, c'est la série La Serre, détective des dieux, de Sylvie Miller et Philippe Ward. Hein, on est en Égypte en 1935, sauf que tous les dieux continuent de régner, chacun sur leur royaume. Alors Isis, par exemple, elle adore rouler en Duesenberg, dernier cri. Et donc, il y a ce mélange de technologie années 30, avec les dieux qui interviennent en permanence et qui vaporisent les humains dès qu'ils leur déplaisent. Et il y a ce malheureux Jean-Philippe Lasserre, détective gaulois, qui a été obligé de s'exiler en Égypte à cause d'un chef de la mafia gallo-romaine à qui il a fait du tort parce qu'il a rapporté les photos du type en train de tromper sa femme. Alors il a rapporté ça à la femme, le chef de la mafia n'a pas trop apprécié. Et donc, Lasserre, qui se contentait d'occuper une chambre au Sheraton du Caire, en noyant son chagrin dans ce breuvage 16 ans d'âge qui est brassé par les Pictes, se retrouve chargé par Isis de mener une enquête. Et si vous connaissez la mythologie égyptienne, qu'est-ce que Isis a perdu quand son mari a été découpé en petits morceaux? Elle a retrouvé tous les morceaux sauf un, le plus crucial quelque part. Et donc, c'est Lasserre qui va se retrouver chargé de l'enquête 3000 ans après. Parce que là, Isis commence à trouver quand même qu'elle s'ennuie un petit peu. Il y a des choses qui lui manquent, hein, après 3000 ans d'abstinence. Donc c'est Lasserre. Et puis comme il va réussir, il va se retrouver chargé des enquêtes pour tous les dieux. Et c'est pas forcément une place de tout repos. Donc c'est hilarant. Et dans le dernier qui vient de sortir, Zeus va le charger de retrouver l'Atlantide qu'on a perdue. Je ne vous dis que ça. C'est excessivement drôle. Donc voilà. J'en termine là-dessus. En m'excusant d'avoir légèrement dépassé. Merci à tous.